Donc Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7, et je vais lire. Tout le monde trouve. Verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Il parle là à l'église d'Éphèse, hein. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaites, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et dans l'Apocalypse, il va parler à plusieurs églises et va faire un peu le bilan de ces églises. Et moi, j'essaie d'imaginer un peu si Jésus venait dans cette église et faisait maintenant notre bilan. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bilan ? Déjà, j'ai là un titre un peu dur, on va dire, mais chaque mois, on se voit avec plusieurs pasteurs dans une pastorale et quelqu'un avait apporté cette chose-là et je l'ai un peu réadapté. Enfin, je trouvais ça très intéressant de faire un petit bilan de ce qu'est l'Église, en fait, aujourd'hui, et ce que Dieu attend. Vous savez, aujourd'hui, je crois que le diable attaque de plus en plus l'Église. Il veut la détruire, la diviser, la multiplier. Et souvent, on veut jeter l'opprobre sur lui, alors que beaucoup de choses viennent d'abord de nous. Quand on tombe dans le péché, oui, le diable est là, mais bien souvent, c'est notre convoitise qui commence d'abord. Et pareillement, dans cette église qui se divise, qui devient de plus en plus bizarre, on pourrait dire aujourd'hui, je parle au niveau général, eh ben, on essaie de ne pas trop regarder ce que sont les chrétiens et qu'est-ce qu'ils font dans cette église, justement. Et de plus en plus, il y a des polluants, on pourrait dire, qui infectent le corps de Christ, son quotidien et ses défis. Alors, pour les changer, eh ben, avant de vouloir changer quelque chose, il faut identifier ce qui n'est pas bon, ou peut-être ce qui est bon, mais là, on voit plutôt ce qui n'est pas bon. Et puis, quand on a identifié quelque chose, ben, il y a des fois une antidote. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu par plusieurs points ce matin. Et ben, j'aimerais bien qu'on protège notre Église, en tout cas ici déjà, après les autres font ce qu'ils ont envie, et protège notre Église de ce qui peut venir. On va voir trois points, et ils sont affichés. Hein. Les poisons de la monotonie, on va en parler. Il y a le poison de l'individualisme aussi. Et ça, c'est peut-être lié à notre société. Une troisième fois, le poison, une troisième partie, le poison de l'immobilisme. Alors la monotonie. Ah, la monotonie. Hein. Aujourd'hui, on essaie de créer une église qui fait que les chrétiens arrivent comme spectateurs. Hein. C'est un peu comme arriver au cinéma, vous asseyez, vous regardez le film, et puis vous rentrez, et c'est réglé. Hein. Et c'est ce que l'église, aujourd'hui, je parle au sens général, veut faire de plus en plus divertir les chrétiens. Je pourrais vous faire un tas de sketchs, je pourrais chanter si vous voulez, pour vous divertir ce matin, mais ce n'est pas mon but. Oui. Enfin, je ne suis pas très bon acteur, mais bon. Mais on veut divertir les chrétiens par la musique. Je ne dis pas que j'ai rien contre la musique, hein, mais si ça devient un divertissement, par le spectacle. En fait, on est en train d'imiter tout simplement le monde, ce que fait le monde, et on l'implante tout simplement dans l'Église. Et après, on dit, c'est ça, l'Église. On veut créer des sentiments. Hein. Il faut que vous repartiez après avec plein de sentiments. Et c'est vrai qu'après un concert, après beaucoup de musique, vous avez plein de sentiments, vous êtes tout joyeux, etc. Et comme on parlait tout à l'heure, lundi matin, première épreuve, vos sentiments vous serviront absolument à rien. Absolument à rien. Parce que les sentiments, ça vient, ça passe. Et le sentiment ne dit pas que je suis plus ou moins dans la bénédiction de Dieu. Le sentiment, vous savez, ça varie. Hein. Il y a d'autres choses qui nous font comprendre qu'on est en relation avec Dieu. Parce que le sentiment ne conduit pas forcément à la repentance. Donc, vous avez plein de sentiments. Ce n'est pas pour ça que vous avez décidé, comme on a entendu Patricia tout à l'heure, de dire « je suis pécheur et je dois me repentir, je dois demander pardon à Dieu ». Le sentiment, ça n'édifie pas non plus. Je n'apprends pas pour ensuite changer dans ma vie. C'est juste voilà, des émotions qui sont là. Alors, il y a une antidote. Hein. Romains 12, verset 1. Quelqu'un, normalement, doit ça. Si on bien lire fort. Hein.
Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu. Ce sera pour votre part un culte raisonnable.
Un culte raisonnable. Un culte raisonnable, c'est un sacrifice du chrétien. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on était en train d'évoquer là, de musique, de sentiments, etc. Un vrai culte, en fait, devrait servir à édifier le chrétien. Le chrétien, en fait, il devrait repartir du culte, alors transformé, ou alors avec le désir d'être transformé, avec peut-être même des objectifs pour la semaine. Ah, j'ai appris des choses cette semaine, ben, j'aimerais mettre ça en pratique dans ma vie. Alors, ce n'est pas toujours la faute des prédicateurs non plus si le chrétien ne veut pas changer après, parce que c'est une décision qui est personnelle aussi. Ou alors parce que je viens en culte, je m'assois comme d'habitude, par tradition, j'écoute, c'est chouette, et je rentre à la maison, et puis voilà, basta, je suis un bon chrétien. Le chrétien, normalement, continue sa vie après le culte. Et en plus, normalement, si le culte était bon, il a envie de changer peut-être quelque chose, ou d'être simplement heureux d'adorer le Seigneur. Mais il faut qu'il ait des objectifs après. Si c'est que des sentiments, c'est pas un objectif. Il n'y a rien à faire. Les sentiments, vous pouvez les avoir ailleurs. Ensuite, deuxième point de cette monotonie, on pourrait dire, c'est que beaucoup écoutent, mais ne changent pas. On peut venir régulièrement au culte, écouter la parole, on dit « Waouh, super bon message, excellent, mais je ne vais pas changer. » C'est pas pour moi, peut-être. On peut écouter, on peut étudier la parole, on peut accumuler un tas de connaissances, et c'est très bien, hein, faute de connaissances, le peuple meurt, mais écouter, ça devrait aussi produire un changement dans ma vie. Si j'écoute vraiment, je change obligatoirement. Quelqu'un parlait de la maturité, il disait « La maturité spirituelle n'est pas une culture générale de la Bible. » Il y a des gens qui connaissent très bien la Bible mieux que moi, mais qui n'ont pas changé pour autant. Et il continue, donc ce n'est pas une culture générale de la Bible, c'est son application. Je viens, j'écoute, j'applique ce que Dieu me demande dans ma vie. C'est aussi en même temps me dire, est-ce que je vois des progrès depuis un an que je vais à l'église dans ma vie? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont vraiment amélioré, changé? C'est le bilan qu'il faudrait faire à la fin de l'année, normalement, hein, parce qu'on a plein de bonnes résolutions pour la nouvelle, mais c'est bien aussi des fois de voir, est-ce que j'ai fait des progrès avec le Seigneur? L'antidote, elle est dans 1 Thessaloniciens 4:3, quelqu'un a normalement le verset.
« Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. »
Dieu veut notre sanctification. Il ne dit pas « je vous propose d'être transformé ». La sanctification, c'est ce changement progressif que Dieu fait en nous. Il enlève le péché, les mauvaises habitudes, pour devenir de plus en plus à son image. Dieu veut nous transformer. Petite anecdote, là, un jour, un groupe de touristes découvrait la ville de Londres et on les conduisit dans un atelier de sculpture. L'un des visiteurs demanda à un ouvrier qui travaillait une tête de lion « est-ce difficile de sculpter un lion ?» Alors, « Oh non !» répondit malicieusement le sculpteur, « il s'agit simplement d'enlever tout ce qui ne ressemble pas à un lion. » Application, est-il difficile d'être un vrai chrétien ? Non, il s'agit simplement d'enlever tout ce qui ne ressemble pas à un chrétien, mensonge, impureté, compromis, mondanité, etc., etc. Dieu veut notre sanctification, Dieu veut nous transformer, enlever tout ce qui ne ressemble pas à ce qu'il veut. Il ne veut pas non plus d'une église de tradition, parce que venir juste pour venir, ça ne sert à rien. La Bible nous dit qu'on est des pierres vivantes. Une pierre vivante, c'est quoi? Aussi vivant que vous, là? C'est un peu plus joyeux, quand même, j'espère. Ça a de la vie, ça a une consistance, je sais pas, mais voilà, on est des pierres vivantes. Et ben, on va à l'église. Ça, c'est une pierre de la tradition, on pourrait dire. Vous êtes heureux de venir au culte? Ou alors vous levez le matin, il faut que j'aille encore chanter, etc. Dieu veut des pierres vivantes, des pierres aussi qui soient sauvées. Parce qu'on n'est pas une pierre vivante si on n'est pas sauvé. Et la tradition, beaucoup de gens par tradition vont à l'église, mais ne sont pas forcément sauvés. Et avec la même, j'ai envie de dire, la même soif qu'au jour de notre conversion. On se souvient tous, au moment où on s'est converti, tout était merveilleux, comme on entendait chez Paquita. Et 20 ans après, toujours aussi merveilleux. Pour certains, oui. Pour d'autres, bon, ça fait longtemps que je suis chrétien, maintenant. Ben, on devrait avoir la même soif qu'à la conversion. Et je devrais être heureux de vouloir plaire à Dieu au quotidien, de vouloir changer, de m'améliorer pour lui. Écouter signifie aussi changer. Et c'est important. Puis une troisième monotonie dans notre église, on pourrait dire, c'est se contenter de la routine. Ça fait 22 ans que je suis chrétien et ça fait 22 ans que je vois à peu près les mêmes présidences, que je vois à peu près les mêmes choses qui se font régulièrement. Ah bon, on ne va pas non plus tout transformer pour moi, mais ça devient répétitif des fois, non? Ça peut être lassant. La répétition crée la routine, les cultes se ressemblent, et on sait très bien que dans 10 minutes, on va avoir la présidence, on va avoir les annonces, on va avoir... On va trouver un peu des surprises des fois. Hein. Bon, ce matin, on avait un témoin, ça change un petit peu. Mais voilà, on se crée nous-mêmes une espèce de routine et à force, ça endort les chrétiens. Et quand je suis endormi, ben, je n'ai pas forcément envie d'écouter et je n'ai pas forcément envie de changer, de m'améliorer et de grandir spirituellement. Antidote, dans 1 Corinthiens 14, verset 26. Quelqu'un a jeté le papier ?
26. Que faire donc, frère, lorsque vous assemblez ? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ?
Alors, il faut remettre aussi ce passage dans son contexte. Certaines choses ne se font plus aujourd'hui, hein. Langue, révélation, etc. Mais l'idée, c'était de voir que qu'est-ce qu'on fait quand on se réunit le dimanche matin ? Que faire, mes frères et sœurs, quand même. D'après là, ce qu'il vient de dire. Je m'assois. Chouette, il y a un président, il va parler pour moi. Puis je rentre à la maison. Et puis après, il y a le prédicateur, évidemment. Le culte est participatif, là. Alors, dans la mesure où on peut le rendre le plus participatif, on l'a fait ce matin par les témoignages des uns et des autres, mais c'est surtout l'idée que s'il est participatif, c'est que moi j'ai une part en tant que chrétien dans ce culte-là. Pourquoi on est si muet le dimanche matin ? Parce que des fois le président tend des perches hein, pour que vous puissiez donner un témoignage, pour que vous puissiez peut-être apporter un chant. Pourquoi ? Hein, c'est la question qu'on peut se poser. Peut-être tout simplement parce que je viens au culte sans me préparer. Que je me dis, le culte, ça commence qu'à 10h le dimanche matin. Et c'est là où je me mets, ça y est, je suis dans le culte. Mais si j'y pensais un peu avant, la veille, même pourquoi pas durant la semaine, dans ma lecture quotidienne, tiens, il y a un verset qui me parle, pourquoi pas l'apporter dimanche matin. Ou, bah, y en a qui aiment chanter, j'ai entendu, bah, s'il y a un cantique là qui vous a un peu harcelé toute la semaine, enfin, c'est peut-être pas le mot, mais hein, bah, pourquoi pas le proposer, peut-être que ça va parler à quelqu'un durant le culte. Si vous êtes un bon acteur et que vous aimez faire des sketchs, venez me voir avant, pourquoi pas ? Ben, ça change un petit peu. Un peu d'imagination pour un peu ne pas se lasser quand on vient à culte. Mais cette imagination, ce travail participatif, il est à chacun. Il n'est pas qu'à moi en tant que pasteur ou au président de le faire. Chacun a une petite part, mais ça doit se préparer avant. Je ne dois pas me dire « je vais au culte de 10h à midi et stop ». Je me prépare avant. Hein. Avoir un culte raisonnable, on l'a vu tout à l'heure dans le verset. Hein. C'est notre vie de sanctification, c'est notre vie quotidienne. Donc, dans ce premier point, hein, les poisons de la monotonie, ben, faisons des cultes un moment d'édification, où vraiment on va apprendre quelque chose, où on veut apprendre, où on va garder quelque chose dans notre cœur. Et puis un moment de joie aussi, pour recharger les batteries, hein, parce qu'à la fin de la semaine, on est tous ben, à plat. Et normalement, le culte devrait nous donner un peu d'énergie. Alors, la sieste aussi, après. Mais on parle d'énergie spirituelle, on pourrait dire. Et c'est vrai que si on vient à un culte où ça, pas ça bouge, mais où c'est un peu plus vivant, où il y a de la joie, forcément, ça a un impact. Pas forcément qu'en sentiment, mais aussi en édification. J'ai appris quelque chose, je veux faire plaisir au Seigneur et je veux changer. Maintenant, je me mets au travail. Le deuxième point, les poisons de l'individualisme qui est en relation avec notre monde aujourd'hui, hein, qui devient de plus en plus individualiste, c'est d'oublier d'accueillir. Hein. Souvent, l'Église vit en autarcie. Alors, elle s'admire elle-même, se referme sur elle-même. Hein. Qu'est-ce qu'on est bien, nous, les chrétiens, ensemble, hein. Pas plus, voilà. Et finalement, elle vit pour elle-même. Mais est-ce que c'est ça, le projet de Dieu ? Elle néglige d'aller vers l'extérieur, parce que le vrai rôle d'une église, c'est pas seulement de se réunir le dimanche matin, de louer le Seigneur, c'est d'aller à l'extérieur et d'annoncer la bonne nouvelle, normalement. De rayonner, d'être des flambeaux, d'aller vers les âmes perdues. C'est ça aussi le rôle de l'église, normalement. L'antidote, elle est dans Romains 15, verset 7.
« Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. »
Est-ce qu'on accueille les autres comme Christ nous a accueillis ? Le jour où j'ai reconnu mon péché, Jésus a dit, oh, attends, j'ai pas le temps là pour l'instant, on va voir ça plus tard, c'est ça ?
Non.
Bah oui, j'espère que vous dites non, parce que là, Jésus n'est pas comme ça. Ou quand j'ai besoin de prier, ou quand je suis dans la désolation comme notre pauvre Jérémie tout à l'heure, Dieu dit, bon, on verra dans 20 minutes ou dans 30 minutes, parce que j'ai un rendez-vous là. Il nous accueille avec précipitation, j'ai envie de dire, avec joie. Hein. Et est-ce que l'Église ne devrait pas accueillir aussi l'autre quel qu'il soit, de la même manière, Mais pour accueillir l'autre, il faut des fois sortir, il faut aller vers l'extérieur, quitter la sécurité de l'Église, le confort de l'Église. On est bien dans notre Église, hein. Mais alors, aller parler dehors de Jésus-Christ, alors on va se moquer de nous, on va nous envoyer balader. Mais non, on doit sortir. C'est le rôle aussi de l'Église, faire l'effort. Et c'est un défi que d'évangéliser, surtout aujourd'hui, hein. Moi, je me pose la question, quelle est ma stratégie, on va dire, personnelle dans l'évangélisation pour toucher les âmes perdues? Et s'il fallait parler là maintenant de notre stratégie en tant qu'Église, est-ce qu'on a vraiment une stratégie pour annoncer la bonne nouvelle? Je suis désolé de dire non, pas forcément. Elle n'est pas très claire, en tout cas pour moi. Est-ce qu'on prend le temps d'y réfléchir? Parce que ça fait aussi partie du travail de l'Église, ne pas être individualiste, mais aller vers les autres. Un autre poison de l'individualisme, c'est prospérer sans libéralité. Il y aurait beaucoup de choses à dire là, mais Dieu donne énormément de richesses à son Église, au travers des uns et des autres. Alors, on parlait avec les pasteurs, hein, on disait, il y a beaucoup d'Églises qui épargnent, et qui se retrouvent avec des millions sur leur compte. Enfin, j'exagère peut-être des millions. Mais c'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas épargner. Mais à un moment, ça sert à quoi d'avoir 500 000 euros sur son compte et le garder pour nous? Si Dieu donne des richesses, ce n'est pas pour qu'on s'enrichisse dans l'Église. Loin de là. Ou alors, inversement, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris ce qu'est l'offrande. Oh, moi, je donne un tout petit peu de temps en temps. Ce n'est pas une histoire de donner ou de ne pas donner, c'est une question de foi. Le Seigneur nous demande de donner avec joie, selon la mesure de ce que l'on a, sans nous ruiner, mais surtout avec un geste de foi. En faisant l'offrande, ce qu'il nous dit, c'est... Tu donnes peut-être quelque chose d'abord qui m'appartient parce que c'est moi qui te le donne, mais en même temps tu vas découvrir que quand tu me fais confiance, je prends soin de toi. Et très peu de chrétiens, je crois, ont fait ce geste de foi. C'est se jeter un peu dans le vide. Hein. Je ne suis pas du genre à réclamer l'argent, ce n'est pas ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt que les gens voient que quand ils font ce que Dieu leur demande, ils voient que Dieu agit réellement. Si, comme cette veuve qui avait tout donné à l'époque, Jésus l'avait dit, bravo, hein, par rapport aux pharisiens qui avaient plein mais qui donnaient rien. C'est pas une histoire de donner beaucoup ou pas, mais c'est de se dire, je fais confiance maintenant à Dieu. Ça change complètement l'objectif, l'optique, on va dire, de l'offrande. En même temps, l'Église a besoin, évidemment, de tourner. Alors, l'antidote, 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7.
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment.
Celui qui donne beaucoup va recevoir de Dieu beaucoup. Et ce n'est pas simplement un petit verset comme ça, c'est une réalité. Il faut simplement l'avoir vécu dans sa vie. Hein. Dieu prend vraiment soin de nous, ce n'est pas juste un verset comme cela. Mais évidemment, il faut que j'essaye pour voir ce que ça va donner. Donc Dieu donne pour son œuvre au travers des uns et des autres. Et ce qu'il voudrait, c'est qu'on investisse, par exemple, pour créer d'autres églises. Il y a beaucoup d'églises en France qui ont besoin d'un bâtiment ou d'un pasteur pour pouvoir le soutenir. Et si on n'a pas les fonds, on ne peut pas le faire. C'est bien dommage. On a besoin d'argent pour soutenir les missionnaires qui annoncent l'évangile à droite et à gauche, qui ont tout quitté simplement pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a besoin. Hein. Mais Dieu donne des moyens normalement. Alors évidemment, si moi je les retiens, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas investir dans ce que Dieu veut faire. La prospérité, entre guillemets, que Dieu nous donne doit servir à Jésus-Christ et pas à nos banques. Hein. Parce qu'ils font du bénéfice pendant ce temps-là, mais ce n'est pas ça notre intérêt à nous. Les intérêts que nous voulons, c'est de voir le royaume de Dieu avancer. Faire des projets comme nous, on a fait grâce à Jean-Baptiste, qu'on a fait pour Mayotte, envoyer plein de colis. C'est un peu d'argent dans l'église, certes, mais ça va servir. Tous ces enfants là-bas qui n'ont rien, ils vont voir de l'amour, un geste d'amour, et qui sait ? Peut-être que ça va les conduire à Christ, tout simplement parce qu'on a investi de l'argent dans un projet. Et il y a tellement de choses à faire. Il y en a qui ont beaucoup plus d'imagination, mais on a vu que c'est un effort hein, quand même, d'avoir des projets comme cela. Mais voilà, je sais que ça aura un impact positif. Troisième poison de l'individualisme, c'est négliger la prière communautaire. Vous savez, le pasteur, il râle tout le temps parce qu'on ne vient pas prier, parce qu'il n'y a rien, mais c'est une arme. Et c'est l'arme qu'il ne faut pas négliger dans la stratégie de l'Église. Pendant le culte, pourquoi peu de chrétiens prient ou on dirait des fois qu'on n'a rien à dire à Dieu. Hein, pendant notre moment de louange, tout à l'heure, je vois des sujets. Mais des fois, on a l'impression qu'on n'a rien à dire. C'est bien dommage. Est-ce qu'on n'a vraiment rien à dire à Dieu? Alors, il y en a qui vont dire, mais je suis timide. Je me souviens, la première fois que j'étais jeune chrétien, j'ai prié en public, j'ai failli tomber dans les pommes. Hein, mais je comprends. J'exagère peut-être, mais c'était pas loin quand même. Mais il n'y a pas que la timidité, moi, je crois. C'est peut-être parce qu'il y a un vide spirituel dans notre vie aussi. Peut-être parce que j'ai absolument aucune relation avec Dieu durant la semaine. Forcément, j'arrive sec le dimanche matin. Maintenant, il faut parler à Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, moi ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Absolument rien. Antidote, Matthieu 26, 41. C'est pas grave, vas-y.
Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
L'antidote, c'est d'avoir une relation avec Dieu avant même de vouloir commencer à prier. La vie de prière, elle commence au quotidien, dans cette relation avec Dieu. Et si j'ai pas de culte personnel, si j'ai pas un petit moment avec Dieu, forcément, j'aurais pas envie de prier le dimanche matin. Quelqu'un, un ancien ouvrier, employé des télécoms, avait écrit ceci par rapport à la prière, je trouvais ça intéressant. Premièrement, choisis le bon code régional, ne compose pas à l'aveuglette, en parlant de prier. Deuxièmement, une conversation téléphonique avec Dieu n'est pas un monologue. Ne parle pas sans arrêt, mais écoute celui qui te parle à l'autre bout du fil. Hein, souvent, j'ai besoin, boum, hop, je m'en vais. Et Dieu, des fois, il peut me regarder. Bon. Troisièmement, si la communication est interrompue, vérifie si ce n'est pas toi qui as coupé le contact, parce que Dieu est toujours là. Hein, c'est souvent moi qui arrête. Quatrièmement, ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu uniquement en cas d'urgence. Hein, épreuve, quand tout va bien, Dieu, m'en fiche. Cinquièmement, ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures de tarif réduit, c'est-à-dire en fin de semaine. Un appel court devrait être possible régulièrement. On peut prier tous les jours, même courtement. Je ne pense pas qu'il faille prier 3 heures. Dieu sait déjà ce que vous allez dire, de toute façon. Il n'est pas bête quand même, Dieu, je crois. Il ne faut pas lui expliquer comment on arrive aux choses, etc. Simplement, j'ai besoin de ceci, merci parce que tu es vivant, etc. On n'a pas besoin d'expliquer les choses, je crois, à Dieu. Cinquièmement, je l'ai déjà dit, sixièmement, prends note que les appels auprès de Dieu sont sans frais. Enfin, quelqu'un qui ne nous demande rien. Et on n'en profite pas, c'est curieux. N'oublie pas, septièmement, de rappeler Dieu qui te laisse sans cesse des messages sur ton répondeur. Dieu veut nous parler, Dieu veut dialoguer avec nous, Dieu veut avoir une relation. Et bien, espèce de nota bene, hein, il dit, si malgré l'observance de ces règles, la communication s'avère difficile, adresse-toi en toute confiance à l'Esprit Saint, il rétablira la communication. Saint-Esprit est là pour nous aider dans les moments où on ne sait pas quoi dire. Puis un petit bémol, si ton appareil ne fonctionne plus du tout, peut-être des gens qui ne prient plus depuis un petit moment ou ont du mal, hein, apporte-le à l'atelier de réparation qu'on appelle également le pardon. Ton appareil est garanti à vie et sera remis à neuf pour un traitement gratuit. Si j'ai du mal à prier, à avoir cette relation avec Dieu au quotidien, ben je peux lui demander pardon tout simplement et il va m'accueillir et me pardonnera et va m'aider au travers de son esprit à mettre cela en marche au quotidien. Et forcément, si moi j'ai un culte personnel, si j'ai une vraie relation avec Dieu, à un moment, quand j'arrive au culte, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire ce que Dieu a fait, ou un chant, ou je ne sais pas. Mais il se passe quelque chose, hein. Je suis bouillant normalement pour le Seigneur. Mais pour ça, il faut que je m'arrête et que je fasse un bilan de la semaine. Si là, on devait avoir un sujet de reconnaissance pour Dieu, vous êtes capable de trouver en 30 secondes qu'est-ce que Dieu a fait pour vous cette semaine d'extraordinaire ou de pas extraordinaire. Je ne veux pas savoir. Mais il faut s'arrêter de temps en temps, parce que la reconnaissance, c'est un effort, s'arrêter, voir ce que Dieu a fait pour moi, et alors là, forcément, je vais avoir la reconnaissance. Puis un troisième, ou un quatrième, je crois qu'il y a un quatrième, poison, on pourrait dire, de l'individualisme, c'est oublier de pardonner le prochain. Le danger de ne pas pardonner, parce qu'il y aura toujours des conflits dans la vie, dans l'Église ou ailleurs, mais tout conflit exige un pardon. On ne peut pas rester toute notre vie sans pardonner celui qui m'a fait du mal ou si moi j'ai fait du mal. Hein, le pardon doit être réciproque entre les deux personnes, pas une seule, d'un seul côté. Il doit être authentique aussi. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je t'ai pardonné ». Puis il y a l'amertume qui commence à rentrer là. Et des années après, on ne s'en rend même plus compte, mais il est là. Hein, notre inconscient nous joue des fois des petits tours. Vous savez, si on ne pardonne pas, le diable est là. Ah, tu ne veux pas pardonner, c'est bien, continue comme ça. Alors, ce n'est pas sur le moment qu'on va s'en rendre compte, mais plus tard, beaucoup plus tard peut-être, ça sera un objet de division dans l'Église, un objet de querelle ou je ne sais pas quoi, mais le diable est assez imaginatif dans ce domaine-là, mais il va l'employer. Ou alors, il va me rendre triste, il va me rendre malheureux, dépressif même pour certains, mais il va l'employer. Ça, c'est sûr. Donc, le Seigneur veut qu'on apprenne à pardonner. Hébreux, chapitre 12, verset 15, l'antidote.
Veillez à ce que nous ne se privent de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume pour saint des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés.
Une petite racine d'amertume peut embêter tout le monde. Vous imaginez ? Si les églises se divisent, ce n'est pas parce qu'ils s'aiment, hein, généralement. C'est parce qu'il y a de l'amertume. C'est parce qu'il y a un manque de pardon. Il y a peut-être une autre réalité. Mais on doit accepter une réalité en tant que chrétien, c'est qu'on peut être blessé, c'est vrai. Ça arrive, ça arrivera, hélas. Mais on peut aussi blesser quelqu'un. Et ce qu'il faudrait surtout se dire, c'est qu'en aucun cas, si j'étais blessé, on ne doit pas exagérer cette blessure. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas décapité ou brûlé encore pour l'instant. C'est quand même pas la fin du monde. Je sais qu'il y a des blessures plus ou moins difficiles, on est bien d'accord. Mais quand même, on a quand même tendance à exagérer hein, quand on m'a fait du tort. Oh là là, c'est grave. Hein, Seigneur, t'as vu comme c'est grave. Alors là, il faudra beaucoup de temps avant que je pardonne à cette personne. On est comme ça. Hein. Je fais un peu du cinéma, mais c'est ça en fait. Hein. Et des fois, c'est pour rien du tout. Et après, parce que je ne pardonne pas, ben, l'amertume rentre et finalement ça va même diviser. Pardonner comme Christ nous a pardonné. C'est ce qu'il nous apprend hein, dans sa prière. De pardonner comme lui nous a pardonné, sinon je ne serais pas pardonné non plus. Là, il y a une petite anecdote. Hein, une femme a écrit « Tous les pourquoi comptent-ils vraiment hein ?» Parce que souvent on se pose des questions. Pourquoi moi? Pourquoi des liens? Tous les pourquoi comptent-ils vraiment? Toutes les réponses peuvent-ils ôter la souffrance ou toutes les raisons sécher mes pleurs? Mais si elles ne viennent du ciel, non, je continuerai à verser des larmes. Mon Dieu, toi qui m'as sauvé des flammes de l'enfer, sauve-moi maintenant de la tyrannie de l'amertume. Elle reconnaît qu'il y a un combat, qu'il y a des difficultés et qu'il faut en être sauvé. Satan aime l'amertume. Il aime ça. Ah, parce qu'il sait qu'il va pouvoir l'exploiter et diviser, détruire l'Église. C'est donc ma responsabilité à moi de pardonner à celui qui m'a offensé. Donc, dans ce deuxième point, hein, je pense qu'il faut qu'on apprenne à bâtir une église fraternelle face à tous ces poisons, mais une fraternité qui grandit, qui est riche en amour, mais aussi en libéralité. Hein, et c'est ainsi que Dieu veut son église et elle sera vivante. Troisième poison, c'est les poisons de l'immobilisme. Une église sans disciples, ça paraît complètement insensé. Et pourtant, ça existe de plus en plus. Une église sans disciples. Hein. Alors, il y a la tentation aujourd'hui d'avoir une méga-church. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir étréchi une église de 1000 personnes. Je ne sais pas où on les mettrait. Bon, on verra bien. Hein, le Seigneur va pourvoir si jamais ça arrive. C'est tentant, non? Bon, il n'y a que moi. Mais vous savez, ça excite l'ego de beaucoup de personnes, parce que vous n'êtes peut-être pas dedans, autant des pasteurs. Mais moi, j'entends souvent dire des chrétiens, « Moi, je viens de telle église où il y a 5000 personnes. Oh, » j'ai dit, oh, alors que nous, on est quoi, une quarantaine ce matin? On a l'air fin, hein? Mais il y a de l'orgueil là-dedans. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'être 5000 personnes? Et dans ces 5000 personnes, la question que je vais poser, c'est est-ce que c'est des disciples? Alors là, à mon avis, le nombre, il va d'un seul coup diminuer à un point. On ne peut pas même imaginer. Souvent, dans ces méga-churches, alors je ne veux pas les accuser, hein, mais ce n'est pas de la jalousie, mais c'est une réalité aussi. On ne parle pas de la Bible, ou rarement. On ne parle pas des vérités de base, le besoin de se repentir, de changer, de grandir et de devenir des disciples, parce que ce qu'on veut, c'est tout faire, hein, s'arranger pour qu'on puisse faire du nombre. Et là, il faut être très arrangeant pour avoir du nombre, pour plaire à tout le monde. Et ça, évidemment, ça marche. Hein, quand on laisse tomber un peu certaines vérités bibliques, alors là, oui, ben, vous faites du nombre, hein, mais finalement, vous ne faites pas des disciples. Antidote, Éphésiens 4, versets 11 à 13.
Et il a donné les uns aux autres. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ.
Dieu veut notre édification. Il veut que l'on mûrisse, que l'on grandisse, que l'on change, qu'on soit transformé. Et des fois, on pourrait se dire « Ah ben moi, je ne grandis pas parce que c'est la faute de l'Église ». À faute du pasteur, hein, ou à faute du pasteur de toute façon. Mais est-ce qu'il n'y a pas une décision personnelle à prendre d'abord, avant de vouloir jeter la pierre sur l'un ou l'autre? Est-ce que moi, je ne dois pas me dire un dimanche matin ou pendant la semaine, maintenant, j'ai vraiment envie de grandir? Et tant que je ne prendrai pas cette décision, rien ne se passera et j'aurai l'impression que l'Église ne m'édifie pas, etc. Mais pour celui qui a pris la décision, même si des fois c'est peut-être light, pourquoi pas, ça peut arriver. Mais j'ai toujours quelque chose à saisir. Je suis pasteur, je connais beaucoup de choses, mais je me plais toujours à écouter des simples vérités des fois. Ça fait du bien de se laisser reprendre dans notre vie. Hein. Mais il faut que je décide de grandir d'abord. Alors aujourd'hui, il y a la tentation de vouloir s'édifier tout seul sur Internet. Ouais, clic, 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 clic. Hein. Et je ne sais pas si on s'édifie. Bon, il y a des fois des bonnes choses, mais il y a énormément de mauvaises choses, de mauvaises interprétations, du légalisme. Enfin, si vous êtes doué, vous arriverez à faire le tri. Mais honnêtement, peu de gens font le tri et acceptent tout ce qui arrive là-dessus. Et surtout, parce qu'on vient de le lire dans Éphésiens, la stratégie de Dieu pour édifier son Église, ce n'est pas sur Internet. Il a donné des pasteurs. Alors les prophètes et apôtres, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais il a donné des pasteurs, des gens qui sont là aussi pour édifier. C'est ça sa stratégie. Et ça, on l'oublie souvent. Alors ce n'est pas pour mettre le pasteur en avant, ce n'est pas ça l'idée. Mais il a donné un don à chacun. Mais c'est la stratégie de Dieu de vouloir édifier son Église au travers de ses ouvriers. C'est comme ça qu'il veut qu'on grandisse, pas autrement. J'ai rien contre Internet, allez de temps en temps, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a une stratégie biblique, et aujourd'hui on essaie de l'écarter de plus en plus. Et en même temps, ça donne une responsabilité au pasteur, hein, parce qu'il n'a pas à raconter n'importe quoi non plus devant les gens. Et il y en a qui racontent de plus en plus n'importe quoi. Un deuxième poison de l'immobilisme, c'est grandir sans conversion interne. Je m'explique. Alors en Église, ça peut grandir par addition externe. Hein. Les gens viennent, et puis Dieu bâtit son Église, il le dit dans Actes, avec les gens qu'il rajoute chaque jour. Et moi, je suis heureux quand il y a une nouvelle personne qui arrive, découvre d'autres chrétiens ou pas. Voilà. Et l'Église grandit comme cela. Mais une Église, ça ne se mesure pas seulement au nombre de personnes qu'il y a, à la quantité d'offrandes qu'on va donner, à la qualité de la musique ou à la qualité de l'orateur. Dieu a un antidote vis-à-vis de ça, c'est dans 2 Corinthiens 5, 20.
Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mmh.
Dieu veut aussi voir des conversions dans l'Église. C'est quand même bizarre quand une Église, au bout de 10 ans, n'a pas eu une conversion à l'intérieur. Il y a un petit problème, je crois. Il y a un vrai problème. Parce que tous les gens qui viennent le dimanche matin ne sont pas forcément convertis. Mais si au bout de 10 ans, cette personne qui vient et qui n'est toujours pas convertie, là, ça pose un sacré problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne veut pas simplement additionner à droite et à gauche, mais il veut aussi qu'il se passe quelque chose dans l'Église elle-même. Et ça va passer par, justement, le fait que nous sommes ambassadeurs pour annoncer la réconciliation à ces âmes perdues. Est-ce qu'on parle de cette réconciliation à nos familles, à nos amis, à nos collègues de travail? Est-ce qu'on leur dit que vous êtes pécheurs et que pour l'instant, dans l'état où vous êtes, vous risquez de partir loin de Dieu pour l'éternité? On appelle l'enfer. On imagine vraiment le danger qu'il y a là, ou on s'en fiche complètement. Il y a un vrai danger pour eux et c'est notre travail d'annoncer l'Évangile. Et si je parle à quelqu'un, ça ne se fait pas tout de suite, ou un collègue, mais à force de discuter, à un moment, il viendra peut-être dans l'Église. Et peut-être qu'il aura envie de se convertir. Et c'est ça aussi l'Église. Et c'est ça, désirer une Église avec des vrais chrétiens. Mais un vrai chrétien exige d'inviter, exige d'évangéliser. C'est un effort hein, que de parler de Dieu et de sa grâce pour nous. On ne doit pas simplement profiter de ces gens qui viennent de l'extérieur. C'est bien. Moi, je vous accueille avec joie. C'est pas ça que je veux dire. Mais il faudrait aussi qu'il y ait des conversions à cause de notre témoignage quotidien. Troisième poison, toujours dans l'immobilisme, c'est refuser la consécration. Et ça, c'est la mode aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont membres d'une église, mais ne veulent pas s'engager. Ils sont consommateurs de l'église, hein. C'est comme pour aller à Carrefour, hein. Je viens, je prends et je m'en vais. Ils consomment, je profite des autres, mais alors surtout ne me demandez rien. On rigole, mais en même temps, c'est grave, quelque part. Et après, ben, dans leur vie quotidienne de chrétiens, ils s'étonnent qu'ils sont un peu moroses, que... Oui, c'est pas terrible la vie chrétienne, ils sont un peu tristounés, on pourrait dire. Hein. Ben, tout simplement parce que Dieu leur a donné un don, il a dit qu'il a donné un don à chacun, quelque chose, des œuvres à pratiquer. Il n'a pas dit le chrétien naît de nouveau, s'assoit sur sa chaise tous les dimanches et ne fait rien. Il a dit vous allez vous mettre au travail. Oui, oui, on rigole. Mais il faut travailler. Alors, sans exagérer, hein, si je vous vois tout le temps à l'église, vous vous mettrez dehors aussi, vous avez une famille, on est bien d'accord. Mais j'ai quelque chose à faire. On y réfléchit. Moi, est-ce que je suis capable de faire quelque chose pour le Seigneur, honnêtement? De taille humaine? Bon, ben non, c'est pas vrai. Si Dieu ne nous aidait pas, on ne serait pas capable de faire quoi que ce soit pour lui. Mais il nous donne son esprit, il nous a donné un don, et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On devrait être reconnaissant. J'ai une capacité dans l'Église, et c'est Dieu qui me la donne. Waouh! Je ne sais pas si on l'a réalisé. Vous ne l'avez pas réalisé. Dieu veut faire quelque chose avec moi. Moi, je me sens honoré. Je me sens vraiment honoré de la part de Dieu de dire, je sais que moi, je ne suis pas capable, mais toi, tu vas me rendre capable pour faire quelque chose et pour te servir. L'antidote, Romains 12, 11.
Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur.
Généralement, dans l'Église, on dit plutôt, ayez de la paresse, soyez paresseux. Hein. Soyez un peu fervent d'esprit et quand vous avez le temps, servez le Seigneur. Là, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est un impératif. Ayez du zèle et non de la paresse. Il n'est pas en train de dire, je vous propose, c'est il faut et c'est tout. Voilà. Avoir du zèle pour le Seigneur. Que chacun mette son don au service des autres, nous dit un autre passage. Dieu veut des chrétiens qui sont acteurs de leur Église. À la mesure du don que Dieu nous donne, mais acteurs, pas profiteurs de l'Église. Et ça veut dire que j'ai quelque chose à faire dans cette Église. Servir Dieu, et en servant Dieu, je sers évidemment mon prochain. La consécration, elle est exigeante. Hein. Là, je ne sais pas si vous connaissez David Livingstone, un missionnaire, hein, et il parle justement de cette consécration, et il dit « On parle du sacrifice que j'ai fait en dépensant en Afrique une grande partie de ma vie. Peut-on appeler un sacrifice ce qui n'est que l'acquittement d'une petite partie de la grande dette envers notre Dieu que nous ne pourrons jamais payer? Est-ce un sacrifice que ce qui apporte avec soi sa réponse bénie, la conscience de bien faire, la plaie de l'esprit et la grande espérance d'une glorieuse destinée? Laissez ce mot abandonner cette idée, à vrai dire, il n'y a pas de sacrifice. Dites plutôt qu'il y a un privilège. Je n'ai pas fait un sacrifice, et si vous connaissez un peu sa vie, vous pouvez imaginer ce qu'il a vécu. Nous ne devons pas parler de cela, nous rappelant le grand sacrifice que le Christ a fait, laissant le trône de son Père pour se donner lui-même pour nous. David Livingstone a fait énormément de choses dans sa vie, mais il n'a pas fait ça comme étant un sacrifice, mais simplement une reconnaissance vis-à-vis de Dieu, et il dit un privilège. La consécration fait peur à beaucoup de chrétiens, alors qu'elle est un privilège. Il faut le comprendre, c'est tout. Oui, ça va demander des fois des sacrifices, il ne faut pas non plus le cacher. Ça ne va pas être toujours facile de servir Dieu, d'être consacré réellement, mais au fond, c'est un privilège, et surtout, c'est une marque, je crois, de reconnaissance pour le grand sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. Puis, quatrième et dernier poison de cet immobilisme, servir sans aimer. Parce que dans le service, il y a plusieurs déviations, on pourrait dire. On l'a vu tout à l'heure dans Apocalypse, cette église d'Éphèse, qui est bien, qui a l'air d'être énergique et tout ça, et dit, tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que on peut servir Dieu, on peut faire un tas de choses, évangéliser, mais on peut avoir abandonné le premier amour. C'est quand même dur hein, quand on y réfléchit un petit peu. Et comment on peut savoir où on est aussi dans notre vie? C'est facile de faire des projets, c'est facile d'être actif, c'est facile d'avoir de l'activisme, mais sans aimer, c'est très facile. Le monde fait beaucoup mieux que nous, largement mieux. L'antidote, 1 Jean 4, 21.
Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
Aimer Dieu signifie aussi aimer son prochain. Et dans mes motivations pour le service, hein, si je suis au service, c'est que je veux faire non seulement fidèlement la volonté de Dieu, et donc en faisant cela, j'aime Dieu et je démontre que j'aime Dieu, mais en même temps, quand j'aime Dieu, forcément je suis poussé à aimer mon prochain, particulièrement mon frère et ma sœur, en Christ, mais mon prochain aussi, celui que je vais rencontrer. Et si je sers froidement, c'est bien triste, on peut le faire, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce qu'il veut, c'est qu'on serve, mais avec beaucoup d'amour. Hein. Et quand on commence à servir avec de l'amour, là, c'est déjà plus délicat, c'est plus difficile. Hein, d'aller. Imaginez que vous voulez aimer dans votre service en allant vers un clochard, vers des gens dans la difficulté. On peut servir dans l'église, hein, je prépare ci, je mets ça, c'est facile. Mais servir vraiment, et c'est ce que Dieu nous demande aussi, d'aller vers les perdus. Hein, Jésus était avec des prostituées, avec des voleurs, avec des gens de mauvaise vie. Il a servi avec amour, il ne les a jamais rejetés, il ne les a jamais jugés. Ou quand il l'a fait, il leur a laissé de la chance. Mais il a aimé, au travers de son service, il a démontré tout son amour. Et c'est là où mon service va devenir parfait, quand il est fait et emprunt d'amour pour mon prochain. Donc dans cette troisième partie, que notre service ne s'enfle pas d'orgueil, hein, parce qu'on peut servir Dieu, mais plutôt diffuse notre amour pour Dieu. Pas que dans le service, dans notre témoignage, dans notre façon d'agir les uns avec les autres, qu'on ressente qu'il y a quelque chose de différent chez moi, chez le chrétien, dans cette église. Pour que les gens s'interrogent, hein, comme on avait vu, et qu'à un moment, ils acceptent tout simplement Christ dans leur vie. Pour terminer, alors, que devons-nous changer dans notre église? Écouter, pratiquer. Ça veut dire que j'attends, alors je ne veux pas peut-être maintenant, mais chacun a peut-être une idée, une réflexion, comment améliorer. On vient d'écouter. Maintenant, j'ai envie de changer. Alors, ce n'est pas seulement au niveau de l'Église, mais peut-être à mon niveau, tout simplement. Si j'ai entendu, je vais aussi agir. J'espère qu'on... Je ne pense pas qu'il y ait tous ces poisons dans notre Église, mais s'ils commenceraient à venir, éventuellement, qu'on soit capable de les discerner et de les enlever. Qu'on ne devienne pas une Église rablabla, de tradition, on vient le dimanche, comme des zombies, mais qu'on vienne avec joie. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend dans le quotidien. Ça s'apprend dans ma relation aussi avec Dieu. Bâtissons, impliquons-nous pour une belle et vivante église. Je la veux belle, je la veux vivante, cette église. Alors, avec ce que l'on a, mais qu'elle soit surtout agréée pleinement par Dieu. C'est ça qui m'importe le plus. Et pas qu'à un moment, Dieu fasse un reproche à notre église. Oh, oui, je pense qu'il aura des choses à dire, certainement, on n'est pas parfait. Mais quand même, on doit en avoir conscience quelque part. Et puis, devenons des vrais disciples. Pas des chrétiens du dimanche. Pas des chrétiens qui se disent chrétiens, qui ne sont même pas des nouveaux peut-être, ou alors qui sont là avec une vie vraiment morose de chrétien. Être disciple, ça veut dire avoir une discipline, c'est ce qu'on étudie le vendredi soir en ce moment, ça veut dire se mettre en action, ça veut dire avoir une vie consacrée au Seigneur, et pour moi-même, et dans le service. Ça veut dire suivre Jésus-Christ, ça veut dire propager aussi la bonne nouvelle. Donc beaucoup de sujets là, et on va prendre un petit moment de prière. Peut-être cliquer sur la prochaine diapo. Comme je sais qu'on n'a pas d'imagination des fois, on va prendre un moment pour prier ensemble. Et j'ai mis quelques sujets. Alors, chacun peut-être peut le faire dans son cœur, mais, ou peut-être à voix haute, ou s'il y a d'autres adorations, ça ne me gêne pas. Mais on peut prier peut-être pour un culte renouvelé et vivant, qu'on ait de l'imagination, qu'on se sente participer. Prions pour qu'on soit des chrétiens qui écoutent et qui changent aussi, pour des disciples consacrés. Hein. Pour un meilleur accueil, peut-être aussi. Alors, ce n'est pas que ici dans l'Église, mais c'est à l'extérieur, dans l'évangélisation. Pour une libéralité qui sert Dieu et la croissance de l'Église. Parce qu'on ne veut pas voir que notre Église, mais on veut que Dieu travaille dans tout le monde. Pour un intérêt croissant pour la prière communautaire. Et là, je crois qu'il y a besoin de prier, parce qu'on n'a jamais le temps. Pour des chrétiens qui se pardonnent. Alors, ce n'est pas forcément pour aujourd'hui, mais pour dans l'avenir. Et pour un service qui sera plein d'amour. Seigneur, merci pour l'idée formidable qu'est l'Église, mais bien souvent nous oublions que tu as quitté ton ciel de gloire, tu t'es servi par les anges, tu n'étais pas obligé d'accepter cette mission, et tu as revêtu le serviteur qui allait jusqu'à la croix mourir pour nos péchés, et pour ensuite, par ton esprit, créer l'Église. C'est toi qui as donné ta vie pour que nous puissions nous réunir, que nous puissions grandir, nous édifier, Seigneur, et apprends-nous justement à considérer la valeur de cette Église, apprends-nous à l'aimer, à la faire vivre, à la faire grandir, Seigneur, à en devenir un véritable acteur, une pierre vivante, comme tu dis dans ta parole, Seigneur. Et tu vois le travail qu'il y a à faire dans nos cœurs personnels d'abord, et Seigneur, écouter, c'est une chose, changer, c'est ce que tu désires. Apprends-nous à t'écouter, pas que le dimanche, mais chaque jour, au travers de ce culte personnel, au travers de notre relation de prière avec toi. Et Seigneur, cette Église qui travaille aussi dans la semaine, qu'elle puisse revenir une semaine après, pleine de joie, de reconnaissance, avec l'envie de partager, de participer, chacun selon sa mesure, mais avec la joie surtout d'être là et de t'adorer. Seigneur, tu connais nos défauts dans cette Église et je te prie de nous donner du discernement pour nous améliorer, que ce soit en interne, mais que ce soit aussi dans cette mission vers l'extérieur, que nous puissions rayonner, que nous puissions faire connaître à tous ces gens à côté qui ne te connaissent pas, mais que quelqu'un les aime, que quelqu'un veut leur offrir ta grâce. Merci de nous travailler, c'est individuellement chacun, et évidemment tu travailleras à l'Église dans sa totalité. En Jésus-Christ. Amen. Amen.